de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un débat sur des entrepreneurs pas tout à fait comme les autres, car ils sont également handicapés. En France, 18% des personnes handicapées en capacité de travailler sont au chômage. C'est deux fois plus que les personnes valides. Loin de s'avouer vaincus, certains décident d'entreprendre pour créer leur propre emploi. Leur cas est rare, un parcours souvent semé d'embûches, qu'il s'agisse des prêts bancaires, des assurances. Comment convaincre finalement quand on est différent? Quelles aides, quelles réussites aussi pour ces handipreneurs? Comment faire changer le regard des investisseurs et de la société sur le handicap? Le succès business, grâce à l'adhésion des clients, peut-il justement faire changer ce regard? On va en discuter avec nos invités qui ont tous forcé le destin et sont aujourd'hui des handipreneurs. Bonjour Éric Brun-Sanglard.
Oui, bonjour.
Vous êtes architecte d'intérieur, non-voyant. Vous avez perdu la vue à 33 ans. Vous avez changé de métier. Vous êtes devenu architecte d'intérieur par le toucher. Votre expérience est assez singulière. Vous êtes devenu un entrepreneur de design sensoriel aux États-Unis où vous vivez en partie. On vous appelle The Blind Designer et vous publiez « Reconstruire sa maison intérieure » aux éditions du Cherche Midi. Vous nous raconterez ce parcours pas banal. Également avec nous, Desane Gembok, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'origine camerounaise et vous avez fondé l'agence de communication EEH. Lab, qui est spécialisé dans la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, comme on dit, sauf que, évidemment, avec vous, il y a un fort impact et une forte tonalité sur la diversité et le handicap. Vous êtes vous-même en mobilité réduite depuis l'âge de 4 ans, c'est comme ça qu'on peut dire?
Oui, c'est ça.
Ouais. Après une polio?
Après une maladie qui s'apparente à la polio, parce que j'ai des séquelles qui portent à croire que c'est la polio, mais ça n'a pas été diagnostiqué quand je suis tombée malade.
Nous sommes aussi en liaison avec Grégory Cuilleron. Bonjour Grégory Cuilleron.
Bonjour.
Vous êtes cuisinier, entrepreneur, animateur de télé, devenu célèbre. Vous cuisinez avec un bras et demi. On vous a dit au départ, ça ne va pas être facile.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne les ai pas cru, j'y suis allé.
Et vous êtes avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Lyon. À la télé, en tout cas, tout le monde constate votre handicap. Vous nous direz d'ailleurs quelle relation vous avez nouée avec votre public à travers la cuisine et votre expertise. Les voisins et les voisines, si vous vous sentez concernés par le sujet, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour téléphoner gratuitement ou pour poster des messages.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Et tout de suite, un reportage. Ulysse, c'est le nom d'une entreprise de transport de personnes handicapées. L'idée, c'est très simple, c'est de les accompagner dans leur trajet quotidien, vers l'école, vers leur lieu de travail. Cette entreprise a été créée il y a plus de 20 ans par un handipreneur, Franck Vialet, tétraplégique. Elle emploie de nombreux conducteurs porteurs de handicap eux-mêmes, comme Nadir, qui chaque matin va chercher plusieurs enfants handicapés chez eux. Charlie Dupio s'est immiscé dans sa camionnette à 9h du matin en Seine-Saint-Denis.
Là, je fais la récupération de Saint-Denis et Aubervilliers. Et puis après, je vais à Drancy. L'IME se trouve à Drancy.
L'IME, c'est un institut?
C'est un institut spécialisé pour enfants en difficulté.
Ouais. En l'occurrence, pour des enfants porteurs d'autisme?
Ouais, d'autisme ou trisomie, pour enfants handicapés.
On est dans une fourgonnette avec 8 enfants?
Ouais. Pour récupérer les enfants, les ramener à l'école et puis après aller les récupérer de l'école pour les ramener chez eux.
J'ai faim!
T'as faim, Chloé?
Oui!
T'as pas mangé ce matin?
Non!
Ah bon?
J'ai mangé un poulet kebab.
Poulet kebab? T'as mangé un poulet kebab le matin et tu me dis t'as faim? Tu vas manger après à l'école?
Ouais.
Ah bah ça va. Donc moi c'est Monsieur Nadir. Je suis chauffeur scolaire tous les jours de la semaine, accompagnateur aussi d'enfants en situation de handicap. Et moi aussi je suis porteur d'handicap. J'ai fait un AVC et j'ai eu une hémiplégie droit.
Hémiplégie, ça veut dire que vous avez été paralysé?
Ouais, tout le côté droit. Je boite un peu et j'ai le bras et la main, je peux pas la faire fonctionner trop la main.
La main droite?
Ouais, la main droite. Elle reste tout le temps comme ça, fermée et tout, en pattes de chat. J'ai appris à vivre avec ses séquelles. J'arrive à conduire, ça va, parce que je l'utilise pas trop, la main droite.
La main droite, c'est celle sur le levier de vitesse ?
Celle sur le levier de vitesse, c'est ça, exactement. Je suis gaucher, heureusement, donc ça va.
Il date de quand, votre AVC ?
À ce moment-là, j'avais 22, 23 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je me suis réveillé d'une sieste, sorti sur le balcon, et puis là, je suis tombé d'un seul coup. Et j'arrivais plus à bouger tout le côté, mais j'arrivais même pas à crier, j'arrivais même pas à parler. Déjà au début, je parlais même pas. Et j'ai perdu un peu de mémoire.
Vous avez appris à remarcher ?
Ouais, j'ai appris à remarcher, j'ai appris à reparler. Avant, je vendais l'accessoire automobile, je pouvais monter plein de trucs. J'entretenais les voitures, j'étais dans un garage. Et puis maintenant, je peux plus faire des trucs manuels. J'ai dû changer de travail, j'ai dû chercher sur Internet, j'ai dû... Et puis là, je suis reconnu comme handicapé, comme travailleur handicapé. Je suis resté 2 ans vendeur primeur. Et puis j'ai fait serveur aussi. J'étais trop debout, trop d'aller-retour et tout. Je pouvais pas porter des assiettes et tout. J'ai fait pendant 1 mois et puis j'ai arrêté.
Et vous avez commencé à chercher du travail ?
Ouais, c'est ça. C'était une longue période de chômage, c'est ça. 4 ans à peu près, on va dire. On se dit, on sert à rien, on fait rien du tout. Quand on se réveille tous les matins et tout ça, et puis on a nulle part où aller, on fait rien du tout de notre vie. Genre, c'est des années qui sont en train de se perdre, quoi. Avec ma main qui est handicapée à moitié, c'est un frein. Et pour d'autres métiers, on peut pas parce qu'on n'a pas fait d'études, quoi. Comme étude, j'ai que la 3e, c'est tout. Mais après, j'ai trouvé cet emploi-là sur Internet.
Cet emploi de conducteur ?
Ouais, de conducteur accompagnateur d'enfants en situation de handicap. Ça fait 3 mois que je fais ce travail-là, j'aime bien. Au début, j'avais un peu peur avec des gamins et tout ça. Je dis peut-être que je ne vais pas réussir à le conduire, je vais avoir du mal à passer les vitesses, je vais avoir du mal à tourner le volant, je vais avoir du mal à plein de trucs, quoi. Mais franchement, avec mes nouveaux véhicules et tout ça, c'est trop facile, quoi. On m'a fait un test, bien sûr. De me réveiller le matin, d'aller travailler, d'aller bosser et tout ça, et revenir l'après-midi aussi et tout. On sent qu'on est utile. Là, il nous a donné le feu vert pour les laisser descendre parce que les surveillants ils sont là, donc du coup je vais les laisser descendre. Bonne journée les enfants. Attends Chloé, je vais te donner ta valise.
Merci.
De rien, bonne journée, bonne semaine.
Au revoir.
Au revoir.
Franck Vial, vous êtes le fondateur de ULIS, ce réseau de transport qui permet en fait le transport de personnes handicapées et qui a plusieurs franchises dans la France. Vous avez monté cette entreprise en 1996, il y a presque 24 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ?
Moi-même étant en fauteuil roulant depuis plus de 30 ans suite à un accident.
Qui vous rend tétraplégique ?
Exactement, atteinte des 4 membres, qui me cloue pendant 2-3 longues années avec des problèmes médicaux très importants, des problèmes de rééducation. Et puis au bout de 3 années, une renaissance avec l'idée de se dire « Ok, la vie a fait que je sois en vie, certes handicapé mais en vie ». Qu'est-ce que je vais faire à 22 ans de mes 10 doigts, entre guillemets, sachant que bon nombre de professions, je ne pourrais pas y accéder tout simplement par la nature même de l'handicap. Et j'ai repris mes études à ce moment-là, dans le social, puisque je suis assistant de service social à la base. Dans le cadre de mes études, j'ai eu de grosses difficultés à trouver des moyens pour aller simplement en centre de formation tous les jours. La situation, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Et du coup, a germé l'idée de créer une société qui soit adaptée aux besoins de chacune des personnes à mobilité réduite.
Quel est le coût pour les personnes ?
Pour 99% des personnes que nous transportons, c'est gratuit, puisqu'il y a effectivement cette manne publique qui est extrêmement importante en France. Par exemple, des élèves et étudiants handicapés qui bénéficient d'un aller-retour quotidien.
Combien vous comptez de salariés aujourd'hui ?
À peu près 3500 salariés également. Déjà, le fait est qu'on a, nous, naturellement, pas mal de conducteurs qui sont eux-mêmes concernés par un handicap. L'exemple que je donne aussi par moi, ben, c'est aussi peut-être à des jeunes qui se disent « Oh là là, est-ce que je vais pouvoir ?» Ben oui, puisque je pense que je fais partie des personnes les plus lourdement handicapées, ben, j'ai pu me réaliser dans ma vie professionnelle. Donc c'est aussi le moyen de peut-être de susciter des vocations.
Cette entreprise Ulysse couvre une trentaine de départements, donc en France. Il y a d'autres entreprises aussi qui existent dans ce domaine, mais une partie du territoire manque encore de transport adéquat pour les personnes handicapées, alors que la loi handicap de 2005 prévoit tout de même l'obligation d'une accessibilité généralisée. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire. Et puis je voudrais aussi vous préciser que les conducteurs qui travaillent pour Ulysse, comme Nadir qu'on a entendu, sont souvent à temps partiel, payés au SMIC, donc au salaire minimum. Voilà, il y a encore du travail. J'aimerais vous demander à vous trois, Éric Brun-Sanglard, à vous, Desanne Gembock, à vous, Grégory Cuilleron, qu'est-ce que vous reconnaissez dans ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui pose réellement le débat entrepreneuriat et handicap aujourd'hui, Desanne Gembock?
Alors, je suis encore sous l'immersion de ce témoignage que je viens d'entendre là. Ça me ramenait à mes années d'études aussi, où j'avais beaucoup de mal à me déplacer, à trouver des moyens de transport faciles. À l'époque, j'étais encore en fauteuil roulant. Donc, je me suis motivée à passer mon permis très rapidement pour pouvoir être autonome de ce point de vue.
Éric Brun-Sanglard, vous avez dû vous réinventer professionnellement lorsque vous avez perdu la vue.
Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est un choix que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas affronter mon passé, c'est-à-dire de tourner la page, de me dire, bon, maintenant, j'ai plus ça, mais qu'est-ce que j'ai et comment tourner ce que j'ai en un atout? Donc, quelque part, c'est vraiment une décision que j'ai prise parce que mon passé est mon passé. Je n'ai plus ces fonctions, mais par contre, je suis allé en découvrir d'autres. Mmh. C'est comme ça que j'ai pu me lancer dans une carrière très inattendue en exploitant mes autres sens. Et en me disant, ben voilà, on va peut-être pouvoir créer, quoi. Je vais peut-être pouvoir créer, parce que je suis l'acteur de ma vie, je vais peut-être pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas. Et après, naturellement, c'est comment je vais le valider, comment on va me croire, comment on va vouloir travailler avec moi. Donc, c'est un autre challenge.
Et pour vous, Grégory Cuilleron, par rapport au reportage qu'on a diffusé, est-ce que vous reconnaissez certains freins, certaines difficultés, sachant que vous, votre handicap, vous l'avez depuis la naissance?
Ouais, je suis un mauvais exemple, je l'ai depuis la naissance et puis bon, j'ai pas de problème de mobilité, mais j'en ai d'autres. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est les notions de dignité et d'autonomie, et qui vont souvent de pair. C'est bien de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on en a envie, tout en tenant compte du fait que, en effet, faut faire preuve de résilience sur certains points. Il y a des trucs qu'on peut pas faire, mais c'est pas grave parce qu'on peut se tourner vers plein d'autres choses. On a quand même une palette à notre disposition de métiers qui sont formidables et qu'on peut pratiquer. Donc,
en l'occurrence, la cuisine, a priori, c'est un métier où il faut deux bras valides. Vous avez prouvé le contraire.
Ah ouais, alors là, c'est même pas tant une affaire de bras, c'est une affaire de main.
Exact.
J'ai prouvé le contraire. Je sais pas si j'ai prouvé grand chose, mais en tout cas, j'ai jamais eu trop de doutes sur la question, quoi. Je savais que j'étais adaptable. Ça, c'est la grande force d'ailleurs des personnes en situation de handicap, c'est que on est très très adaptable. C'est ce que je dis aux gens qui cherchent un boulot. Je dis, si jamais vous créez pas votre propre job mais que vous allez en entreprise, vous leur dites que bon, de toute manière, vous passez votre temps à essayer de rentrer dans une petite boîte qui a pas été créée pour vous. Donc
c'est marrant parce que vous dites, oui, je sais pas si j'ai prouvé grand chose, mais j'ai prouvé que j'étais adaptable. Éric Brun-Sanglard, c'est à peu près le même questionnement pour vous, architecte d'intérieur. Non-voyant, a priori, c'est quand même un métier qui nécessite des yeux. Pardonnez-moi mon étonnement.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais il y a d'autres choses que les yeux. La vue, vous savez, c'est une toute partie de nous. Quand on est quelque part dans un environnement ou chez nous ou quoi que ce soit, bah, c'est beaucoup nos autres sens. Parce que la vue, à un moment donné, c'est plus vraiment important. Mais c'est les odeurs, c'est les sons, c'est le toucher,
mais
c'est l'énergie.
Il faut que vous racontiez, Éric Brun-Sanglard, en fait, vous êtes devenu architecte d'intérieur alors après avoir perdu la vue, vous étiez employé dans la publicité auparavant, et c'est presque un hasard, vous n'avez pas choisi ce métier-là parce que vous étiez aveugle. J'aimerais que vous nous racontiez comment c'est arrivé, comment vous avez réalisé que vous aviez ce talent supplémentaire, invisible d'ailleurs pour le coup.
Oui, vous savez, il y a toujours le côté imposteur qui vient là. On se dit, bon, est-ce que c'est un coup de bol? Est-ce que c'est pas un coup de bol? Parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand j'avais été vice-président d'une grosse agence de pub à Los Angeles, à New York et Paris, et quand j'ai perdu la vue, la boîte se revendait. Et moi, j'avais commencé des gros travaux dans ma maison sur les collines d'Hollywood. Et du coup, après avoir perdu la vue, aux États-Unis, tout ce qui est médical est très cher. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de factures que je ne pouvais plus payer puisque je ne gagnais plus d'argent. Du coup, il fallait que je finisse cette maison pour
et
la
vous,
vendre.
Et vous êtes en très mauvaise santé à ce moment-là. Parce que vous avez perdu la vue à la suite d'un virus très grave.
Tout à fait. On me disait, on m'a donné à ce moment-là un mois à vivre. Et c'est vrai que je me préparais quelque part. Quand j'ai perdu la vue, c'était pas vraiment un choc parce que je m'attendais à mourir. Donc pour moi, c'était le début de la fin. Mais des impôts, tout ça, ils s'en fichent un peu. Hein. Vous avez toujours à payer vos impôts, vous avez toujours à payer vos factures jusqu'à la fin. Donc en plus, fallait que je fasse quelque chose avec cette maison parce que je pouvais pas non plus continuer à vivre et finir ma vie dans des travaux. Donc j'ai décidé de la finir et de me
donc,
la réapproprier.
Vous continuez les travaux alors que vous ne voyez plus.
Oui, mais il fallait d'abord que je me réapproprie cette maison. Et en me réappropriant cette maison, c'est-à-dire en me retrouvant dedans, j'ai réalisé que tous mes sens avaient quand même un gros impact sur ce que j'allais faire. C'est-à-dire que mes nouveaux points cardinaux devenaient les sons, les odeurs, le toucher et ce que j'appelle l'énergie d'une maison. Donc je me suis donc repéré par ça. Et petit à petit, j'ai réalisé que c'était vraiment très important dans le design et que ce n'était pas que quelque chose de visuel. Le visuel, je le connaissais, je l'avais expérimenté pendant 33 ans. Donc après, c'était utiliser ces autres sens pour amener un énorme plus à mon travail.
Et est-ce que ce qui vous a guidé dans finalement ce nouveau métier alors que vous êtes aveugle, Éric Brin-Sanglard, c'est la réaction des voyants dans ce que vous faisiez de cette première maison? Et ensuite, il y a eu d'autres maisons que vous avez achetées, refaites, revendues. Il y a eu une maison qui a d'ailleurs une fissure à cause d'un des nombreux tremblements de terre à Los Angeles. Vous l'achetez quand même alors qu'elle est complètement fissurée, cabossée, c'est ça, à l'image de votre corps.
Tout à fait, c'est ça qui m'a attiré aussi dans cette maison parce que je me suis dit, elle est comme moi, et à un moment donné, c'était inconscient, c'était pas vraiment conscient. Si j'arrive à la réparer, à la rendre viable, c'est un peu moi aussi en même temps. C'est moi qui me réparais, c'est moi qui me redonnais une nouvelle peau, qui me renforçait et qui me donnait une nouvelle vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec cette maison.
Et quelle était la réaction des voyants?
C'est là où ça m'a étonné, c'est que les gens... Moi, j'étais dans un monde très visuel, parce que j'étais dans la pub, j'étais directeur artistique dans la mode, puis dans le parfum, à créer des campagnes donc très visuelles, même s'il y avait un côté naturellement odeur, mais généralement, on voit des publicités de parfum. Donc, j'ai quitté ce monde-là pour entrer dans un monde sensoriel, et les gens venaient voir mes maisons et me disaient « Qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi? On n'a pas envie de partir. » Et j'étais rentré dans quelque chose, on parlait plus du visuel, on parlait vraiment du bien-être. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que je me dis, j'amène quelque chose que les autres n'amènent pas forcément.
Vous avez été, vous avez refait des maisons pour des clients célèbres, l'actrice Penélope Cruz, le réalisateur Francis Ford Coppola, vous avez eu le prix de l'entrepreneur de l'année à l'international. Quelle est votre relation avec les ouvriers du bâtiment? Comment vous les dirigez finalement?
En fin de compte, moi j'adore le contact avec les gens, j'adore apprendre des autres et en même temps c'était quelque chose, un échange, parce qu'ils n'avaient jamais travaillé avec quelqu'un d'aveugle, donc pour eux c'était un défi et pour moi aussi. Donc on s'apprenait l'un et l'autre comment fonctionner ensemble. Et pour moi, dans les artisans, il y a l'art. Il fallait que je leur laisse leur partie donc artistique quelque part. Et ensemble, c'était un beau projet parce qu'on où vraiment on se découvrait l'un et l'autre. Il y avait une complicité qui était très belle.
Mais techniquement, comment vous travaillez avec des plans qu'est-ce que vous avez dû inventer comme technique?
Alors j'ai tout fait. J'ai des dessins avec de la, quoi, j'ai utilisé la pâte à modeler, j'ai utilisé des fils de fer, j'ai utilisé des dessins dans le sable, j'ai vraiment tout fait jusqu'à
un
moment donné.
Pour avoir les plans dans les doigts, finalement?
Ben, ça, et aussi pour l'exprimer aux voyants. Alors, j'ai aussi beaucoup utilisé mon corps, parce que le corps, Léonard de Vinci, avec l'homme de Vitruve, nous rappelle qu'on est proportionné, notre hauteur est égale à quand on ouvre les mains, donc en croix. Puisqu'on a ce schéma avec l'homme de Vitruve. Donc j'ai déjà commencé à utiliser mon corps, et je me suis rappelé que dans un intérieur, tout est à partir de notre taille à nous. C'est-à-dire qu'on va aménager une maison par rapport à notre corps. Donc là, j'ai compris quelque chose que souvent les gens dans le monde visuel oublient quelque part, parce qu'ils regardent et ils disent « bon, ça c'est joli, mais vous sortez de votre salle de bain, par exemple de votre douche, et vous allez chercher une serviette qui est de l'autre côté de la salle de bain parce qu'elle fait jolie là-bas. » Ben non, moi je suis arrivé, je contrôlais tout avec mon corps, je faisais les cuisines en proportion, justement, Grégory le sait, quand on cuisine, il faut que tout soit à proximité d'une manière assez facile.
Donc vous faites des mouvements avec votre corps.
Tout à fait, j'utilise mon corps comme si voilà, j'étais en train de faire les choses pour me dire « bon, ça doit aller là, ça doit aller là, et ça devient logique quelque part. »
Il y a ce moment incroyable dans votre livre « Reconstruire sa maison intérieure », vous racontez cette expérience où vous devenez architecte d'intérieur non-voyant. Vous avez des clients, un couple qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur, c'est très classique, hein, sur le choix des couleurs dans la pièce à vivre.
Ouais.
Et là, vous dites quoi? Alors certes, bien sûr, vous avez la mémoire des couleurs. Hein.
Oui, tout à fait. En plus, comme j'étais dans la publicité de parfum, je veux dire, à ce moment-là, c'était la publicité de maquillage et tout ça, je faisais imprimer, donc j'allais toujours voir que les impressions étaient faites parfaitement. Donc, je sais travailler avec les quatre couleurs de base, c'est-à-dire le rouge, le jaune, le bleu et le noir. Et avec ces quatre couleurs, on peut faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc,
oui, mais c'est pas ce qui se passe avec eux, là.
Non, pas du tout.
Vous leur demandez de danser le tango.
Oui, parce que bon, c'était pour une émission de télévision, donc il fallait que ça soit visuel également. Mais je trouve des manières où ils peuvent se retrouver sur une couleur. Et là, dans cette expérience-là, ben je projetais différentes couleurs dans la salle. Et quand ils dansaient, ben on regardait quelles couleurs ça les mettait vraiment en harmonie. Et quelque part, c'était
l'un
assez
avec
génial.
L'autre.
Oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on a décidé de la couleur, parce que tout d'un coup, on les voyait vraiment bien. Et parce que les couleurs, c'est des énergies. Les couleurs, ce n'est pas juste du visuel. Ça a une énergie, c'est très profond. On a une réaction. Il y a des couleurs qui nous font du bien. Il y a des couleurs où on est très indifférent. Et c'était justement rechercher cette couleur qui leur faisait du bien à tous les deux pour qu'ils soient en harmonie dans leur danse de tango. Et c'est comme ça qu'on a abouti à la couleur qu'il leur fallait. Mais une fois de plus, il ne faut pas regarder les couleurs. Moi, ce qui me rend fou aujourd'hui, c'est que les gens disent « Ah, ben, c'est à la mode, on va utiliser ça ». Mais c'est comme si on disait ben, « Une fois de plus, je vais revenir à la cuisine. Ah, ben, telle épice est à la mode, donc on va utiliser telle épice. » Non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme une note de musique. Ce n'est pas parce qu'une note de musique qu'il faut faire tout avec la même note de musique. On retrouve ça dans tous les métiers, d'ailleurs.
Vous dites souvent que dans une habitation, Éric Brin-Sanglard, le visuel, finalement, ce n'est que 15% du bien-être. C'est ça que vous avez démontré grâce à votre handicap, finalement.
Ben, moi, je ne considère pas comme un petit handicap. Moi, je considère ça comme un atout. Donc,
le fait d'être aveugle et architecte d'intérieur.
Ben, tout à fait. Et vous savez, tout à l'heure, j'écoutais un peu ce que vous disiez. Moi, je pense que les gens qu'on dit handicap aujourd'hui, on est forcé de toujours trouver des solutions pour faire que ça soit une fois de plus conduire ou cuisiner ou faire du sport ou quoi que ce soit. On est toujours à la recherche de trouver la solution, comment faire ça avec notre handicap. Quelque part, et c'est pour ça que moi je dis toujours, je fais beaucoup de conférences aujourd'hui et je dis toujours aux chefs d'entreprise et aux gros groupes, prenez des personnes handicapées dans votre compagnie parce qu'ils vont vous donner un regard différent, parce qu'ils sont toujours confrontés à chercher des solutions en dehors de la boîte.
Ouais.
Du coup,
l'inventivité, ça, je crois que ça vous parle à tous les trois, non, des Anne Gembock.
On est obligé d'inventer, de se réinventer soi-même aussi pour apporter quelque chose de nouveau. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, avec les campagnes.
Ouais, c'est le fait d'abord de se réinventer soi-même dans l'urgence, dans la nécessité absolue, qui apporte ensuite dans votre travail de chef d'entreprise une autre inventivité. N'importe quel chef d'entreprise vous dira d'ailleurs, mais on est obligé d'être inventif. Mais vous, c'est quand même à un degré supérieur. Non, je ne sais pas, Grégory Cuilleron, vous, comment vous voyez les choses ?
Oui, c'est sûr que l'inventivité, c'est un truc qui me parle, d'autant plus que moi, j'ai l'inventivité du fait de mon handicap et puis l'inventivité en cuisine aussi, parce qu'on n'a pas envie de faire comme tout le monde et c'est bien de changer un peu de temps en temps.
Vous pourriez dire, en tant que cuisinier handicapé, vous pourriez dire la débrouille plutôt.
Ouais, c'est plus la débrouille. Surtout que, alors moi, j'adore faire des petits schémas. J'ai toujours plein d'inventions en tête que je couche sur papier, mais que je ne réalise jamais, si ce n'est un truc. Il se trouve que je me suis pris de passion il y a quelques années pour le golf. J'aime bien les grands espaces et tout, ça me détend. Et du coup, j'ai dessiné un petit objet que j'ai emmené au prothésiste qui me l'a fait. Je suis très content parce qu'on a fait recherche et développement, on a fait évoluer le truc. Enfin voilà, je trouve ça marrant. Mais en cuisine, moi, j'ai un truc, c'est que je ne veux pas de matériel adapté à ma personne parce que je veux pouvoir faire avec tout ce qui est normalement dans une cuisine et que d'une cuisine à l'autre, je ne sois pas justement handicapé, mais ça passe par des petits tuyaux tout bêtes. Par exemple, moi, sous ma planche à découper, je mets des élastiques de conserve. Vous voyez ces gros élastiques orange pour bien maintenir la planche. Bon, du coup, maintenant, en cuisine, tout le monde utilise ça parce que c'est vrai que c'est très pratique. Du fait de mon bras qui est plus court, j'ai tendance à être toujours plié en deux sur le plan de travail, donc je me mets juste un seau à l'envers pour poser ma planche à découper. Enfin voilà, ce sont des petits détails, voilà. C'est de l'adaptation, c'est de la débrouille, mais c'est pas de la création à proprement parler.
Et qui profite à tout le monde finalement ? C'est ce que vous nous disiez, Éric Brin-Sanglard.
Bah, tout à fait, et c'est ça justement, j'entends Grégory parler de ça, mais nous on est toujours à la recherche de choses, et quelquefois il y a des choses qui s'adaptent vraiment à tout le monde et qui permettent justement des entreprises à faire des découvertes. Donc une fois de plus, je dis à toutes ces entreprises, prenez des gens qui ont justement j'appelle même plus un handicap, c'est-à-dire l'atout de pouvoir penser différemment, de trouver des solutions. Ça devient un atout pour les entreprises.
Oui. En même temps, on ne va pas se mentir, il y a vos métiers respectifs, il y a aussi le fait qu'il faut faire marcher vos entreprises respectives. Vous êtes tous à la fois entrepreneurs et handicapés. Est-ce qu'on peut aussi appeler ça la double peine ? Parce qu'entrepreneur, c'est déjà pas simple, mais alors en plus, quand il faut rassurer des investisseurs, convaincre des clients, etc., c'est une vraie question. On va y venir avec vous, notamment Desanne Gumbock, dans quelques instants. Ça sera juste après Denfima.
Stagner, pas le temps d'être un stagner. On esquive les soucis comme la proie esquive le chasseur. Stagner, pas le temps d'être un stagner. On esquive les soucis comme la proie esquive le chasseur. Tous les jours on slalom, 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 tous les jours on slalom. Tous les jours on slalom, tous les jours on slalom, tous les jours on slalom. Hey. Le matin, personne nous dit lève-toi. Certains bossent quand d'autres déjeunent. Question de vécu, pas question d'âge. Responsable, déjà très jeune. Vos schémas ne sont pas nos limites. Non, s'assumer c'est toujours mieux qu'imiter. Action, réaction, créativité. On a tout choisi sauf la facilité. Pas les mêmes calculs, mais on a juste. J'suis nul en géographie, expert en montagne russe. Tes leçons de vie, c'est de la vapeur, tu peux repasser, merci. C'est pas parfait ainsi, mais on l'a fait même si. Tous les jours on slalom, 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 hey. Ils disent qu'on flotte alors qu'on rame. Mental de surfeur, avenir tellement vague. C'est pour ceux qui restent forts dans les temps faibles. Pour avoir du crédit, devront en faire dos au mur. Vont grimper au rempart, être brillant se mesure pas en ampères. Y'a le A mais on fait le plan B. Depuis l'école on a du mal à se ranger. On veut tous devenir quelqu'un, on sera personne à l'étranger. On passe des dettes aux petites fortunes. On se casse la voix pour se faire entendre. Beaucoup de bouches pour nous juger mais très peu d'esprit pour nous comprendre. On le sait bien trop ce qui se passe après. Si c'est pour faire la morale, c'est pas la peine. Jamais tu m'écoutes, tu veux qu'on parle après. Mais si c'est pour faire la morale, c'est pas la peine. Tous les jours on slalom, 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 hey.
Slalom, c'est une chanson qui résume bien le sujet d'aujourd'hui, entrepreneur et handicapé. C'est Denfima, le rappeur originaire de Toulouse, qui lui-même est atteint de dyspraxie, trouble de l'automatisation des gestes. Qui l'eût cru, en effet, quand on l'entend. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 si le sujet vous parle. Réaliser, se réinventer, entreprendre avec un handicap qui a pu survenir au cours de votre vie ou dès la naissance, on en discute avec vous, Éric Brun-Sanglard, architecte d'intérieur, The Blind Designer, comme on vous appelle aux États-Unis. Vous êtes devenu architecte d'intérieur après avoir perdu la vue. Desanne Gumbock, vous êtes polyhandicapée et fondatrice d'une agence de communication, et on va en discuter avec vous. Et Grégory Cuiron, vous êtes à Lyon, cuisinier, devenu très célèbre, mais pas seulement par votre handicap d'ailleurs. Vous cuisinez avec un bras et demi. Desanne Gumbock, c'est en France que vous avez découvert, vous le racontez beaucoup, que être une femme noire et handicapée, bah, y a comme un petit problème.
Déjà, être une femme noire handicapée, ça fait finalement trois handicaps qui m'ont permis aujourd'hui d'être sur le chemin sur lequel je suis, puisque c'est un cas de discrimination à l'emploi qui m'a dégoûtée d'aller chercher du travail et de réfléchir à aider la société finalement à dépasser l'état de préjugés.
Mais vous êtes bardée de diplômes. Vous avez étudié en France à l'université aux États-Unis dans le Connecticut.
J'ai commencé par la Sorbonne Nouvelle. D'abord, j'étais au Cameroun. Et puis, je suis arrivée en France parce que j'étais évacuée sanitaire pour avoir des soins médicaux plus appropriés. Ensuite, après un long parcours hospitalier, je suis retournée à la Sorbonne où j'ai eu une licence en LLCE. Puis, je suis partie à l'université du Connecticut pour faire un master en e-business. Donc, quand je mettais sur mon CV la mention de travailleur handicapé, il ne se passait jamais rien. Au bout de 6 mois, quand j'ai enlevé cette mention, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Donc, c'est là vraiment la prise de conscience.
Il faut bien préciser en plus qu'en France, les entreprises ont une obligation légale, en tout cas une forte incitation, parce que si elles n'emploient pas un certain quota de travailleurs handicapés, elles payent des amendes extrêmement coûteuses.
Oui.
Ça, c'est la législation française.
C'est la législation depuis 2005. Mais quand je commençais justement à chercher du travail, c'était dans les années 2005. Donc, c'était au tout début de cette loi. Et finalement, j'ai travaillé quand même dans une entreprise qui m'a recruté en CDD. Et à la fin du CDD, il m'a été proposé un CDI, mais ça ne s'est jamais fait. Puisqu'on m'a rappelé le jour où je devais reprendre le poste pour me dire qu'il y avait une erreur. Donc, c'est là pour moi la prise de conscience que le fait même d'être handicapé, enfin d'être étiqueté handicapé, posait un problème de conscience. Quelquefois, ce n'est même pas des choses qui sont conscientes. Les personnes se rendent juste compte que ça va être un problème pour eux. Peut-être qu'ils ne sauront pas gérer. Alors qu'on ne regarde pas les capacités de la personne, ce qu'elle peut amener en termes de richesse dans une entreprise. Donc là, moi, j'ai décidé d'arrêter de chercher du travail et de créer.
Créer votre agence de communication, EEH Lab, une agence de communication spécialisée dans la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, dont la diversité, le handicap. Votre atout, ce sont des campagnes de communication avec probablement une autre façon de représenter le handicap.
Il faut dire que l'agence EEH Lab, c'est une agence hybride. Ça veut dire qu'il y a ce volet intérêt général où je me suis donné la mission de faire évoluer les perceptions à la fois sociales et professionnelles sur les questions du handicap. Mais il y a une offre business vers les entreprises sur du conseil, de la communication et l'événementiel. C'est là où je gagne de l'argent pour pouvoir reverser dans la branche intérêt général pour faire mes campagnes. Ces campagnes que je fais, ce n'est pas une commande d'un client, c'est moi qui décide d'investir sur une thématique, de trouver des ressources et de déployer la campagne.
Vous le disiez, les employeurs finalement manquent totalement d'inventivité, se disent mais comment on va s'adapter à ces personnes-là? Vous leur revendez cette inventivité-là?
En fait, cette inventivité s'impose finalement. Parce que quand je déploie les campagnes grand public, qu'on voit tout l'engouement autour de la campagne. Là, récemment, on a lancé la campagne.
Engouement sociétal, hein, de la part des citoyens.
Absolument. Ben, c'est là où ça se passe, d'abord.
Piétinons les préjugés, c'était une campagne très forte.
La campagne Piétinons les préjugés, justement, a été lancée sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Ensuite, on a fait une campagne sur la place du Capitole à Toulouse. Quand on voit dans une journée qu'on peut recevoir plus de 1000 personnes qui s'intéressent finalement à ce genre de choses, les entreprises commencent à s'interroger. Donc, elles vont sortir de leur frustration ou de leur rigidité pour pouvoir s'ouvrir à cette inventivité.
La campagne Chaos également.
La campagne Chaos, je le dis en anglais parce que c'est une campagne qui a une portée internationale et qui va être déployée à l'international. Elle parle de troubles psychiques. Les troubles psychiques aujourd'hui qui concernent, selon l'OMS, une personne sur quatre dans le monde.
Et d'ailleurs, c'est le handicap psychique, c'est la majorité des handicaps qui concernent les personnes au travail aujourd'hui. Ah. Hein. On représente beaucoup les personnes handicapées en fauteuil roulant et au travail, mais ce n'est pas ça la majorité des personnes handicapées au travail.
On a 80% de personnes avec des handicaps invisibles. Donc aujourd'hui, on a investi le champ de la santé mentale et à travers la campagne sociétale, donc passer de ville en ville avec cette bulle pour essayer d'inviter dans la tête d'une personne qui vit avec un trouble psychique, pour finalement amener plus de compréhension sur le sujet, pour effacer les peurs, atténuer les peurs et amener plus de vivre ensemble. Et c'est ce que je souhaite aussi amener dans les entreprises.
Donc, je peux vous couper une seconde parce que vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites quelque chose de très intéressant. Moi, je pense, comme vous, que pratiquement tout le monde est handicapé quelque part. Alors quelquefois on est handicapé parce qu'on pense qu'on n'a pas le bon diplôme, ou on est handicapé parce que justement on ne croit pas en ça, en soi, on n'a pas de confiance en soi, ou on est handicapé par un physique qui nous dérange. Mais moi je rencontre tellement de gens aujourd'hui qui n'osent pas à cause d'un handicap qui pourrait être facilement corrigé. Alors que nous, quelque part, ben, notre handicap, on doit vivre avec parce qu'on ne peut pas vraiment le corriger. Mais il y a tellement de gens que je rencontre quand je fais des conférences qui me disent « Ah ben merci beaucoup parce que vous m'aidez justement à surmonter mon handicap. »
Oui, Grégory Cuilleron. Oui.
J'en profite. Hein. Handicapé, c'est pas un état général. On est handicapé face à une situation particulière, en effet. Moi, c'est ce que j'explique souvent quand j'essaye d'être didactique. Ben, mon père, lui, face à son ordinateur portable, il est handicapé parce qu'il est nul en informatique. Et ben, il se trouve que nous, on a un handicap qui se voit. Quand je dis qu'il se voit ou qu'il se perçoit, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ouais, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais on n'est pas incapable en tout, fort heureusement, et on est même plutôt capable dans plein de domaines.
Alors il y a bien sûr la question de l'entrepreneuriat aussi, hein, et on va parler du regard de vos clients parce que c'est autre chose. Il y a la difficulté de trouver un emploi si on n'est pas entrepreneur, quand on est porteur de handicap, le regard de la société, et là le regard de vos clients qui font de vous des vainqueurs. Mais je voudrais qu'on donne la parole à des auditeurs qui nous appellent au 33 1 84 22 71 71. Aimé Raymond est en ligne avec nous de Douala au Cameroun. Bonjour Aimé Raymond.
Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs.
Eh bien, soyez le bienvenu chez les 7 milliards de voisins. Aimé Raymond, vous avez 35 ans, vous êtes cadre dans l'administration au Cameroun, mais vous avez créé une association, c'est ça, pour le développement de l'entrepreneuriat des personnes handicapées au Cameroun ?
Exact. C'est une association qui œuvre dans l'entrepreneuriat, qui offre des opportunités de développement qui permet aux personnes en situation de handicap d'être connectées aussi avec les entreprises.
Comment vous faites pour déjà que ce discours-là soit audible par les personnes handicapées ? Parce que déjà, les jeunes entrepreneurs en Afrique, ils disent, rien que quand on veut entreprendre, on se sent en situation de handicap parce que personne ne veut de nous, les banques ne nous prêtent pas d'argent, etc. Mais alors, en plus, si on est porteur d'un handicap...
Allô, j'ai pas bien suivi.
Oui, Aimé Raymond, je vous demandais comment vous faites pour que cet espoir-là soit permis pour les personnes porteuses de handicap.
Voilà, nous avons mis en place un cadre d'échange, de partage avec les entreprises qu'on appelle le Handicafé. Et nous réunissons donc les décideurs d'entreprise pour leur parler en fait de tous ces challenges, leur présenter le potentiel de ces personnes. Déjà, au Cameroun, il y a 3 millions de personnes handicapées.
Et, 3 millions ?
3 millions de personnes. Oui, 3 millions, oui. 3 millions environ, dont les dernières statistiques de 2015. Alors, sur ces 3 millions, il y a au moins 1 million de personnes qui peuvent travailler normalement, qui ont des capacités. Le problème, c'est généralement le regard. Donc, le regard de la société sur leur situation. On a l'impression que leur donner du travail, ça sera très compliqué. Et ça fait que on arrive aussi à financer facilement leur projet. Alors nous, au sein de l'association, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mûrir leur projet et les transmettre auprès des entreprises. Maintenant, en ce qui concerne les financements, c'est toujours compliqué parce que les banques elles veulent des garanties. On n'a pas toujours toutes les garanties. Voilà, on se débrouille comme on peut avec les cotisations des membres. Nous avons quelques structures qui nous accompagnent déjà pour nous offrir des salles. Il y a tout récemment une entreprise qui nous a offert des ordinateurs, question de nous impliquer un peu dans le digital. Et nous avons mis en place une unité de séchage des fruits et légumes. Bon, ça permet d'éponger un peu. Nous avons recruté 5 personnes qui travaillent un peu bénévolement. Nous leur donnons l'argent de taxi, ne pouvons pas payer le minimum, quoi. Même le SMIC, on n'arrive pas à payer. Bon, c'est très, très difficile.
Ouais. Là, vous mettez vraiment le doigt sur un énorme problème, hein, les difficultés financières pour démarrer des projets. Merci beaucoup, Aimé Raymond, de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner également sur WhatsApp au 33 1 84 22.
Et bravo, 71. Bravo pour ce que vous faites. Hein.
Ouais, vous avez les félicitations du blind designer Eric Brun-Sanglard. Non, mais la question des financements quand on veut monter un projet, je pense que ça, c'est une question qui vous parle.
Oui, absolument, absolument, et qui est toujours d'actualité. Mais en fait, la débrouillardise, c'est vachement important quand on commence à se mettre sur le chemin de l'entrepreneuriat. Parce que, évidemment, oui, il n'y a pas les banques derrière.
Est-ce que le regard d'une banque sur le handicap est pire que le regard d'un employeur potentiel?
Moi, en fait, je fais pas tellement attention au regard des autres. J'ai envie de faire quelque chose, je trouve les moyens de le faire. S'il y a des réticences au début, je vais, avec ce que je fais, je vais faire sauter ces verrous pour amener l'adhésion sur mon projet. Il faut que le projet soit suffisamment mûri, qu'il soit en phase. Et je pense que les banques, finalement, finissent par ouvrir les portes. Mais c'est vrai qu'il faut s'armer de patience et il faut avoir un réseau qui peuvent porter. Moi, quand j'ai ouvert EH Lab, j'avais travaillé à temps partiel dans une entreprise pendant 3 ans et demi. J'ai cassé le contrat qui était un CDI pour partir créer ma boîte. J'ai demandé au Pôle emploi de ne pas avoir à me verser tous les mois de l'argent, de prendre cet argent comme capital que j'ai investi dans ma société. J'ai commencé à postuler à des prix, j'ai gagné des prix. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pu commencer à faire des premières actions.
Grégory Cuiron, c'est cette question-là que je posais, c'est le nerf de la guerre quand on veut entreprendre, quand on veut monter des projets, ou est-ce que finalement, pour vous, le succès populaire que vous avez eu assez vite à régler ces questions-là?
Bah, c'est vrai que c'est bizarre, mais les banquiers, si on passe à la télé, bah, ils se disent que ça va mieux marcher. Je sais pas pourquoi, ça a jamais été trop un problème. Après, moi, de par le système que je mets en place, je m'associe toujours aussi avec des gens, parce que j'aime bien la transversalité de mes activités, donc je suis pas H24 dans mes restaurants. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pas avoir ce problème-là. Après, j'ai eu une vie avant la télé, j'ai également été entrepreneur, j'avais une petite agence de com. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Pourtant, j'avais pas de gros besoins financiers, mais c'était plus compliqué, les relations avec la banque et l'entrepreneuriat d'ailleurs aussi, tout simplement, parce que ça s'est fini en autre boudin.
Mais Desanne Gumbock disait finalement, je me suis jamais tellement soucié du regard des autres. Vous dites souvent, Grégory Cuiron, que le handicap que vous avez dès la naissance, le fait d'avoir un bras en moins, finalement, ça vous a habitué à être regardé. En quoi ça vous a aidé à accéder à la notoriété plus vite, plus fort, autrement?
Alors, la notoriété, ce n'était pas du tout une fin en soi. Moi, ce que je voulais, c'était cuisiner et éventuellement, la première fois, voir un peu l'envers du décor de la télévision. Je dis que ça m'a entraîné parce qu'en fait, depuis tout petit, les gens, ils me regardent toujours de manière un peu louche dans la rue, enfin, de manière un peu insistante. Et maintenant, c'est toujours le cas, sauf que maintenant, ce n'est pas du fait du bras, c'est parce que certains me reconnaissent. Enfin, j'aime à croire que c'est plutôt ça. C'est vrai que c'est un peu... Alors, on peut se dire que ça peut être enquiquinant, mais en fait, ce qui est bien dans le fait d'être passé à la télé, c'est qu'avant, je passais mon temps à faire de la pédagogie, à expliquer pourquoi je n'avais pas de main, que ce n'était pas grave, et que malgré ce handicap qui avait l'air insurmontable pour certains, on s'en sortait bien. D'ailleurs, moi, à chaque fois que quelqu'un se casse le bras, il me dit « Oh, c'est magnifique ce que tu fais, je ne sais pas comment tu te débrouilles une main ». Je dis juste « C'est juste que moi, ça fait 40 ans que j'en ai qu'une de main, donc j'ai appris comme ça ».
Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On passe la parole à Chérubin qui nous appelle de Metz. Bonjour Chérubin.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu, Chérubin, chez 7 milliards de voisins. Alors, vous avez 31 ans, vous êtes ivoirien. Vous êtes malvoyant, c'est ça?
Oui, non-voyant, complètement non-voyant.
Complètement non-voyant et étudiant, hein, en master de droit à Metz.
C'est ça.
Ouais, respect.
Merci.
Quelles sont les questions que vous vous posez? Peut-être, je pense que vous voulez dialoguer avec nos invités. Il nous reste quelques minutes.
D'accord. En écoutant pratiquement les différents auditeurs, j'ai failli me transporter à la radio pour les embrasser véritablement. Notamment le blind designer et la jeune dame avec vous.
Vraiment,
je tire.
Déjà Gumbock, Eric Brinsangla.
Oui,
Grégory,
je me rends compte que c'est vrai que nous ne sommes pas sur le même continent, mais je me rends compte que les difficultés, elles sont pratiquement les mêmes. Premièrement, le regard des uns sur la personne handicapée. Moi, j'ai été président d'une association en Côte d'Ivoire et j'ai milité dans une ONG Canne Blanche pour l'insertion des personnes handicapées. Et nous avons des ébénistes, nous avons des coiffeuses, mais trouver le financement pour pouvoir installer cette personne-là, c'est véritablement compliqué. Et même quand nous allons devant des chefs d'entreprise dans le privé, ils préfèrent se contenter de nous donner quelques billets de banque et nous tourner la porte pour nous dire qu'on vous rappelle. C'est véritablement compliqué. Et en plus, les banques, vous déposez votre projet, c'est à peine même si on vous rappelle pour vous dire que on a lu votre projet et voilà, on ne peut même pas vous financer.
C'est pour ça qu'on a monté cette émission avec nos invités. Merci, Chérubin, de nous avoir appelés. Il nous reste vraiment un petit mot de conclusion. Je voudrais les uns et les autres, Grégory Cuiron, star de la télé et restaurateur et cuisinier, que vous nous disiez les uns et les autres, finalement, à la lumière de vos parcours d'handipreneur, hein, puisque c'est le mot consacré maintenant, quel message vous voulez faire passer pour tous ceux qui nous écoutent?
Moi, je pense qu'il faut. Ce que je dis souvent aux personnes en situation de handicap, c'est faut se bouger les fesses. C'est-à-dire que on viendra pas vous chercher sur votre canapé. Faut enfoncer les portes et faut être. Pour le coup, faut être le premier à faire son autopromotion. Alors, faut pas non plus partir dans des délires, mais je pense que c'est très important d'aller de l'avant, d'expliquer, de faire preuve de didactique et le savoir-faire, il est là. Et faut le faire savoir.
Éric Brinsanglard, le blind design aujourd'hui, c'est une discipline que vous avez inventée finalement.
Oui, bon, de toute manière, c'est quelque chose dont on a besoin, et même si on ne sait pas mettre des mots dessus, c'est qu'on ressent. C'est pour ça que voilà, j'ai écrit ce livre, je continue à faire des conférences pour l'expliquer. Mais pour revenir un peu sur ce que disait Grégory, quelque part, c'est à nous de prendre notre vie en main et de prouver pourquoi les gens ont besoin de nous. C'est-à-dire de trouver les qualités que l'handicap nous a fait ressortir en nous et leur dire, voilà, vous avez besoin de moi parce que moi, je pense différemment. Dans mon cas, moi, je vois différemment, je vois avec tous mes sens. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vraiment devenir acteur de notre vie. On ne peut pas, comme dit Grégory, attendre qu'on vienne nous chercher. C'est à nous de faire les démarches et d'inventer pourquoi et comment on va être un atout pour quelqu'un d'autre.
Une mission doublement épuisante.
Oui, quelque part, mais en même temps très excitante, parce que moi, je trouve que quelque part, on a tous quelque chose à offrir, mais nous, on doit le mettre en valeur encore plus, on doit le prouver encore plus.
Le mettre sur un écran, effectivement. Des Anne Gumbock.
Alors, je dirais que la prise de conscience de son handicap doit permettre à la personne de se réinventer. Ça veut dire que le handicap en soi n'est pas un handicap. On va trouver d'autres richesses, d'autres sources pour apporter des réponses à la société qui ne sont même pas juste pour nous-mêmes, mais pour la société entière.
Et bien, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous. Éric Brinsanglard, vous publiez votre histoire, mais aussi, je dirais, c'est presque un manuel pour les étudiants en architecture d'intérieur. Reconstruire sa maison intérieure, être bien chez soi et en soi. Et c'est publié au Cherche Midi. Merci à vous, Grégory Cuiron, cuisinier, entrepreneur, d'avoir été en duplex avec nous à partir de Lyon. Et merci à vous, Desanne Gumbock, de l'agence E&H Lab. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. À demain.
Merci, Emmanuel.
Vous les avez entendus.